Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Nous sommes en direct de Paris où il est 2h exactement, 1h en temps universel pour vous présenter le journal. Bienvenue à vous.
Jérôme Bastion.
À la une de cette édition, les premiers avions rapatriant les supporters israéliens dont certains ont été agressés par des jeunes pro-palestiniens en marge du match Ajax-Maccabi Tel Aviv sont arrivés en Israël dans la soirée. L'enquête suit son cours pour comprendre le fil des événements. Les condamnations sont encore, en tout cas, nombreuses et l'inquiétude prévaut pour de futures rencontres sportives à jouer à l'extérieur par des formations israéliennes. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou sollicite le Mossad pour prévenir de tels incidents. Et puis à Budapest, en Hongrie, suite et fin du sommet informel du Conseil européen, sans décision majeure, les 27 veulent lancer un chantier urgent de réforme en réaction aux changements découlant de l'élection de Donald Trump. Les condamnations sont nombreuses en Israël et dans le monde après l'agression de supporters israéliens du club de foot Maccabi de Tel Aviv venus affronter l'Ajax d'Amsterdam en Ligue Europa. Certains ont été jetés dans des canaux, d'autres ont été frappés. On les a aussi forcés à nier leur judéité et à crier « Libérez la Palestine ». Un déferlement de haine qui pourrait avoir été déclenché par une provocation la veille de certains supporters israéliens ayant brûlé un drapeau palestinien, ce qui a suscité la colère des banlieusards locaux pro-palestiniens. À peine nommé à son poste, le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, s'est en tout cas rendu à Amsterdam. Son gouvernement a affrété plusieurs avions pour rapatrier en Israël les supporters qui avaient fait le déplacement. Et le patron du club de foot du Maccabi Tel Aviv s'est exprimé devant les journalistes à la descente de l'avion qui ramenait les footballeurs. On l'écoute.
Ce n'était pas lié au football. Beaucoup de ces gens sont allés regarder un match pour soutenir le Maccabi Tel Aviv, pour soutenir Israël et l'étoile de David. Et les voir se jeter dans les canaux, se faire frapper au sol alors qu'ils étaient sans défense, contraints de renier leur appartenance au peuple juif, c'est vraiment très triste, surtout après l'année que nous venons de traverser.
C'était l'entraîneur Ben Mansford, donc des propos recueillis par Pierre Olivier. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou préconise un plan d'action dirigé par le Mossad pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. La police néerlandaise fait en tout cas état de 5 personnes brièvement hospitalisées et de 62 arrestations. Les condamnations pleuvent depuis, je vous l'ai dit. Emmanuel Macron parle d'actes qui rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Berlin évoque des images terribles et honteuses. Depuis Budapest, où il était réuni avec ses homologues européens, Dick Schroff, le Premier ministre des Pays-Bas, a lui aussi exprimé sa honte. On l'écoute.
C'est une attaque antisémite terrible, intolérable. Nous poursuivrons les coupables. Et j'ai profondément honte que cela puisse arriver aux Pays-Bas en 2024. Je condamne ces actes. Ce qui est arrivé hier soir est terrible, épouvantable. Mon message à Israël, c'est que j'espère que les Israéliens continueront de venir aux Pays-Bas parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour les faire se sentir en sécurité. Il y a toujours des problèmes autour des matchs de foot. Et quand l'équipe d'Israël joue, la police y accorde une attention particulière.
Le Premier ministre des Pays-Bas, donc Dick Schroff, au micro de Carlotta Morteo à Budapest. Les autorités israéliennes avaient appelé les supporters israéliens à éviter un match de basket Euroleague masculine du Maccabi Tel Aviv contre Bologne en Italie ce vendredi. Il s'est terminé sans incident. Mais un autre match de foot inquiète. France-Israël jeudi prochain. La rencontre est maintenue. Elle se déroulera au Stade de France, confirme le ministre français de l'Intérieur. Et puis, concernant Israël, de nouvelles frappes aériennes ont visé vendredi la banlieue sud de Beyrouth après un appel à évacuer le secteur par l'armée israélienne, armée qui pilonne depuis plus d'un mois, vous le savez, les fiefs du Hezbollah au Liban. RFI, 2h05, ici à Paris, 1h05 en temps universel. Le Conseil européen qui s'est refermé ce vendredi à Budapest était informel. Il n'a donc pas abouti sur des décisions contraignantes, mais sur une déclaration commune d'intention, à savoir un vaste plan de réforme inspiré par Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, pour relancer l'économie européenne sous la menace d'une guerre commerciale avec les États-Unis de Donald Trump. Les réformes économiques sont devenues encore plus urgentes avec cette élection aux États-Unis, a averti l'ancien Premier ministre italien, venu présenter son rapport sur la relance de la croissance du vieux continent face aux États-Unis. Bilan de ce sommet avec Carlotta Morteo.
C'est un texte à minima qui aurait perdu en substance. Il est passé de 9 à 4 pages. Viktor Orban, qui présidait ce sommet informel, a constaté l'évidence, je cite, sur la compétitivité. On est tous d'accord, personne ne veut gérer le déclin de l'Europe. Mais de là à être d'accord sur les remèdes, le chemin est encore long. Le président du Conseil, Charles Michel, qui s'apprête à finir son mandat, a toutefois estimé que la teneur des conversations aujourd'hui montrait un certain sens de l'urgence d'agir. En tout cas, parmi les principales propositions, la déclaration de Budapest des 27 mentionne le fait que l'UE prévoit un choc de simplification pour réduire de 25% la bureaucratie pour les entreprises. La Commission s'engage aussi à présenter une politique industrielle dans les prochains mois. Ursula von der Leyen a proposé de mettre sur pied un régime spécial pour les start-up innovantes qui permettrait à plus de 180 000 PME européennes d'accéder au marché unique de façon simplifiée. Et un objectif a été fixé, celui d'atteindre 3% du PIB d'investissement dans la recherche d'ici 2030. Enfin, il semble que les dirigeants avancent sur l'idée de construire une union de l'épargne et des investissements pour permettre d'utiliser les économies des Européens pour investir dans des secteurs d'avenir. Carlotta Morteo, Budapest, RFI.
En France maintenant, les principales mesures dans la lutte contre le narcotrafic ont été annoncées. Il s'agit du renforcement des effectifs, de la création d'une cellule de coordination nationale, une cellule composée de magistrats et de représentants des autres ministères concernés, intérieur et finances notamment. Aurélien Martini, vice-procureur du tribunal judiciaire de Melun et secrétaire adjoint de l'Union syndicale des magistrats, salue cette initiative tout en restant prudent. On l'écoute.
C'est une annonce très intéressante. C'est une matière dans laquelle il y a besoin de coordination, de mise en synergie des différents acteurs qui travaillent sur le terrain. Et donc c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens, c'est-à-dire quelque chose que nous avions proposé et demandé. La petite chose qu'il faut sans doute préciser, c'est que tout cela ne peut pas se faire évidemment à moyen constant, parce que si vous prenez des effectifs pour du temps de travail magistrat pour coordonner, c'est des effectifs que vous allez retirer du terrain. Et si vous retirez de la force sur le terrain pour la mettre dans une force de coordination, alors vous affaiblissez quand même l'action de terrain. Donc il faut que tout cela, sous peine de rester de la communication, ne se fasse pas à effectif constant, c'est très important. Nos collègues marseillais devant la commission parlementaire sénatoriale avaient tiré la sonnette d'alarme. Ils avaient d'ailleurs été un peu grondés pour cela, mais je crois qu'ils avaient dit la vérité. Nous sommes en train de perdre la guerre, et cette guerre-là, nous ne pouvons pas la perdre. Donc il faut la mener avec des moyens et avec des outils efficaces.
Le secrétaire adjoint de l'Union syndicale des magistrats, Aurélien Martini, interrogé par Olivier Sherman. Retour à l'envoyeur, comme on dit, 2000 tonnes de déchets industriels potentiellement toxiques ont regagné le port albanais de Durrës. Après 4 mois en mer, des arrêts à Singapour, en Italie, en Espagne, au Portugal ou encore en Turquie, le porte-conteneur Moliva, battant pavillon turc, est revenu à son point de départ, donc le port de Durrës. Le récit de cette véritable odyssée pour ce bateau dont personne ne voulait avec Élodie Papin.
Le navire Moliva quitte l'Albanie début juillet. À son bord, plus de 2 tonnes de déchets industriels, de l'oxyde de fer, selon la déclaration aux douanes albanaises, dont l'exportation est autorisée. Mais un lanceur d'alerte prévient l'ONG américaine Basel Action Network, spécialisée dans la traque des déchets toxiques. D'après lui, le bateau transporterait en fait des poussières de fours à arc électrique utilisées pour la fabrication de l'acier. Ces poussières peuvent contenir des éléments toxiques pour l'homme et pour l'environnement, notamment du plomb, du chrome ou du cadmium. La Thaïlande, destination initiale du Moliva, refuse alors les déchets. Le bateau erre ensuite 4 mois en mer, avec des escales à Singapour, en Italie ou en Turquie. Il a regagné ce vendredi son port de départ en Albanie, où une enquête a été ouverte pour contrebande de marchandises interdites et abus de pouvoir. Selon les responsables du port de Durrës, les conteneurs vont être transportés et ouverts sous la surveillance de la police et leur contenu sera analysé. Les fours à arc électrique sont de plus en plus utilisés par les industriels de l'acier. Ils permettent certes une fabrication décarbonée, mais imposent une gestion stricte l'impact de ces poussières toxiques.
Élodie Papin du service France et Environnement de RFI, merci beaucoup. Il est 2h10 à Paris, fin de ce journal.